Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le dimanche 23 février 2020 et vous écoutez le débrief du jour 3 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans ce dernier débrief de Cannes, je suis entouré d'une bonne partie de la Proxy Team. Ils sont où tous les autres là?
Je sais pas, peut-être en train de jouer encore, non?
Ils sont barrés. Putain, c'est pas vrai. On est combien? On est que 3 les gars?
Eh oui.
Ah bah voilà, bah les meilleurs. Hein. Alors Astien, salut Astien.
Salut Cyrus.
Et Professeur.
Yo yo yo.
Salut Professeur. Et bien voilà, bah donc on se retrouve les trois derniers vaillants et résistants chroniqueurs de Proxy Jeux. Et donc on va vous parler de cette dernière journée qu'on a vécue ici. On va commencer par parler des interviews qui ont été réalisées aujourd'hui. Alors Astien, tu as interviewé ce matin avec Beno FX.
Oui, on a eu les membres du jury de l'Asdor, enfin deux d'entre eux tout du moins, Olivier Rex et Nathalie Zakarian, qui nous ont parlé un peu de tout le processus pour choisir les jeux qui sont sélectionnés pour l'Asdor. C'était très intéressant.
Okay.
Juste derrière ça, on a eu les Serious Pulp qui nous ont parlé de 7ème Citadelle, leur futur Kickstarter et un peu de leur histoire à eux. Ensuite, on a eu Manuel Boutet du Master Magique, ça s'appelle. Donc, c'est un master jeu vidéo sur Cannes, en gros. Et on a parlé, du coup, de la place du jeu vidéo sur le salon. Et on a parlé un peu de la formation qu'il propose dans son master. Et pour finir, on a eu Thibaut Lyon de Studio H qui est venu nous parler de la création du studio et de lui qui il est, quand est-ce qu'il a rejoint le studio et tout ça.
Donc nous avons pris le relais cet après-midi avec Pionfesseur. On a pu interviewer Accessi Jeux avec Xavier Méran et Ben. On a refait on a fait un petit peu les actus d'Accessi Jeux depuis un an et quelques mois puisqu'on les avait reçus dans une interview plus longue.
On a parlé aussi ensuite avec Ludovox, il y avait Chaman et Chanouillette qui étaient là et donc on a parlé donc de ce site indépendant qui parle de jeux de société.
Voilà, on a parlé de ligne éditoriale en particulier et puis des changements qui ont eu lieu récemment. Ensuite, on a reçu un monde de jeux en les personnes de Martin Wittberg et Sylvain Zito, qui sont à la base des gens qui ont créé un blog sur un espace du Monde, le journal Le Monde, et qui ont développé une chaîne YouTube sur laquelle ils ont différents formats, et en particulier les vidéos news où toutes les semaines, je crois à peu près, ils postent une vidéo avec les dernières nouveautés sorties. Voilà, et d'autres rubriques à l'intérieur.
On a eu aussi Florian Corroyer de Aux Éditions. Alors c'était intéressant parce que c'était la première fois qu'il venait à nos micros. Et donc il nous a parlé un petit peu de cette petite boîte d'édition qui est suisse.
Et enfin, nous avons reçu l'équipe de PEL, enfin l'équipe, une toute petite partie de l'équipe de PEL, hein, donc Paris Ludique, le festival parisien, avec lesquels on a pu parler des difficultés qui ont été rencontrées récemment pour l'organisation de la nouvelle édition qui aura bien lieu en 2020. Hein. Voilà. On est revenu avec eux sur les difficultés de l'année dernière et puis le renouveau de l'équipe en particulier. Voilà, donc ça c'était les interviews de la journée. Donc encore une fois, toutes ces interviews là vont être montées à notre retour et puis on va les diffuser au fil de l'eau dans les semaines à venir à raison de une à deux par semaine sûrement. Voilà, on va discuter de tout ça dans l'association, voir comment on s'organise. On va maintenant passer à nos impressions sur le festival, peut-être en général. On a noté, alors c'est plutôt du ressenti, on n'a pas de chiffres aujourd'hui, hein, on a quand même le sentiment qu'il y a une fréquentation qui est peut-être moindre cette année. On n'a pas forcément d'éléments tangibles pour étayer ça, mais globalement, on a l'impression quand même d'avoir beaucoup mieux circulé que les années précédentes. Professeur, hier, on est allé faire un tour à l'étage dans la partie enfant.
Ouais.
Tu confirmes que c'était quand même, je vais pas dire désert, mais les allées étaient quand même assez ouvertes, quoi.
Hein. Oui, comparativement, disons, à un samedi après-midi normal au festival de Cannes, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas toi, Astien.
J'étais aussi dans l'étage plutôt zone enfant hier.
Et j'ai constaté la même chose que vous. J'ai même pu me poser à des tables qui étaient vides sur des jeux qui sont quand même soit nouveaux, soit avec une certaine réputation. J'ai pu me poser sur un jeu, La Vallée des Vikings, tranquillement. C'était assez improbable. Et même, je trouve, dans l'étage du bas, dans l'espace jeux de société classique, on pouvait trouver des tables disponibles. On se marchait pas vraiment dessus dans les couloirs, j'ai trouvé.
Donc on attendra les chiffres officiels de l'organisation pour étayer tout ça. Hein. Mais bon, globalement quand même, hein, malgré tout, je pense pas que les éditeurs aient eu à se plaindre. Hein, les tables étaient quand même remplies. Oui. Et au final, c'est plutôt bénéfique pour ceux qui sont venus. Et puis voilà. Alors bon, ils se murmurent dans les couloirs. Bon, j'ai entendu par-ci, par-là, parler du coronavirus. Alors est-ce que c'est les gens qui avaient un peu moins confiance à venir Est-ce que les gens auraient cédé à la paranoïa? Bon, je sais pas si on peut en arriver jusque-là. Et puis, bah finalement, il a fait quand même très beau sur Cannes. Donc peut-être aussi que les gens ont pas eu envie de venir s'enfermer dans un festival samedi, dimanche.
Ouais, c'est possible. Ouais. Il faisait très très beau, ouais.
Du coup, on a quand même pas mal réussi à jouer. Sauf aujourd'hui, puisque vous auriez compris que on était d'interview, donc on va parler de beaucoup moins de jeux que d'habitude, surtout que du coup on est que trois. Hein. Mais on va quand même parler de quelques jeux auxquels on a pu jouer, soit aujourd'hui, soit dans les jours précédents. Et on va commencer par Astien, qui voulait nous parler de Kraken Attack.
Ouais, donc je n'y ai pas joué aujourd'hui. J'ai joué hier justement en étant dans la zone enfant. J'ai pas trouvé vraiment de super bons jeux, enfin en tout cas de jeux qui m'ont marqué aujourd'hui, donc voilà, j'ai préféré sélectionner un jeu d'hier. Donc Kraken Attack, c'est un jeu de Antoine et Esteban Boza, donc son fils. C'est édité chez Loki et ça se joue de 2 à 4 joueurs. Donc dans Kraken Attack, on va être une bande de pirates dans un bateau et on va se faire attaquer par des tentacules de Kraken qui vont arriver des deux côtés du bateau, donc sur 4 lignes de chaque côté, donc 8 au total. Et avec des cartes actions qu'on va avoir devant nous, donc on a 2 cartes actions visibles, on va pouvoir activer une carte action et appliquer tout simplement les actions qu'il y a dessus. Donc on va pouvoir se déplacer dans notre bateau parce qu'il y a 4 zones qui vont être à chaque fois en face de 2 lignes qui sont autour du bateau. Et on va pouvoir attaquer que par colonne. Donc en gros, les tentacules avancent sur une ligne et quand elles arrivent à une certaine colonne, on va pouvoir les attaquer. Si on a un petit symbole de canon, on les attaque de très loin. Si on a un symbole de pistolet, on va les attaquer sur la deuxième colonne. Et si on a un symbole d'épée, on va les attaquer sur la première colonne, celle qui est la plus proche du bateau. On fait fuir toujours la tentacule et on le renvoie à sa zone de départ. Le but va être de jouer de temps à autre en fait nos cartes d'action qui ont des grimaces dessus. Donc il y a le petit dessin de notre bonhomme et ça fait une grimace. Et chaque fois qu'on fait une grimace, le poulpe s'énerve et avance sur une piste. Au fur et à mesure qu'il va avancer, il va nous donner de plus en plus de mal et nous envoyer de plus en plus de tentacules dans la figure. Ça va être de plus en plus dur de se défendre. Jusqu'à ce qu'il arrive sur le plateau, on devra lui donner 3 points de dégâts. Il prendra la place d'une tentacule, en gros, hein, il faudra lui donner 3 points de dégâts, et enfin, on aura gagné la partie. La difficulté, c'est que notre bateau est d'abord protégé, puis une fois que le bateau n'est plus protégé, si un tentacule revient toucher notre bateau à cet endroit-là, on prend une blessure, en gros, un trou dans notre coque, et à partir de 4 trous, on a perdu la partie.
Ouais. Ça fait quand même penser à certains aspects de Ghost Stories. Je me demande si c'est pas quelque part une sorte de version pour enfants de Ghost Stories.
C'est possible qu'ils soient inspirés de ça, ouais.
Enfin, en tout cas, sur les visuels que j'ai vus et sur l'aspect progression, là, pas des fantômes pour le coup, mais des tentacules. Et le fait que bah, s'ils arrivent au niveau du bateau, tu vois, normalement, il y a les tuiles qui sont hantées dans Ghost Stories et là, bon, ça casse.
Là, ça casse la coque, ouais.
Ouais, je sais pas. Ok. Ouais,
j'émettrai quand même une petite réserve sur la difficulté du jeu. Je l'ai trouvé quand même assez ardu. Hein. On a joué j'ai joué avec 2 autres adultes, donc on était 3 et on a clairement perdu la partie. Hein. Et là-dessus, c'est pas forcément un jeu où un enfant aura plus d'avantages que nous. Ça va être vraiment, va falloir s'en sortir. Quoi. C'est un jeu quand même difficile. Et même les animateurs sur le stand me disaient que, en général, la première partie on la perd.
D'accord.
Donc, je trouve ça assez frustrant pour un enfant de se faire harceler tout le long de la partie avec des tentacules qui nous percent notre bateau, qui nous attaquent, pour à la fin perdre. Je trouve ça assez dur, quoi.
Bah, faut bien que tu puisses perdre quand même de temps
en
temps.
Oui, je suis d'accord, mais je l'ai trouvé vraiment très très dur, tu vois. En tant que 3 adultes, on n'est pas arrivé du tout à contrer quoi que ce soit. Et pour faciliter un peu le jeu, il y a des pouvoirs sur chaque personnage, mais ça rajoute du coup une complexité à comprendre pour un enfant d'aller en plus comprendre le pouvoir de chacun des personnages qui est bien sûr différent. Donc voilà, faut essayer d'y aller, mais peut-être faire attention à ce niveau de difficulté qui peut en rebuter certains.
Ouais. Bon, on précisera quand même que c'est à partir de 7 ans, hein, c'est un jeu pour enfants, mais bon,
c'est dans la tranche haute, ouais.
Ouais, c'est la tranche haute de, pour enfants quand même. Ok, très bien, merci. Professeur, tu voulais nous parler de Draw and Roll.
Tout à fait, je voulais parler de Draw and Roll, un jeu qui est sorti chez Blue Orange, enfin qui va sortir chez Blue Orange, de Antonin Bocara pour 3 à 6 joueurs. C'est un jeu où vous allez avoir, moi j'aime bien les jeux bizarres, et en l'occurrence c'est un jeu où on va carrément dessiner sur des dés. En fait c'est des espèces de dés un peu géants qui ont des faces vierges et on va pouvoir dessiner au feutre dessus, au feutre effaçable bien évidemment. Et en gros, c'est un jeu de rapidité où vous allez devoir faire deviner un thème aux autres joueurs en dessinant des choses, des dessins du moins qui évoquent ce thème. Genre, je sais pas, la pêche à la ligne, vous allez dessiner un bateau, une canne à pêche, des choses comme ça. Donc vous devez faire 6 dessins différents. Et ensuite, une fois que tout le monde est prêt, on va lancer les dés simultanément. On va devoir deviner les catégories des autres sans toucher aux dés. Donc on va faire le tour de la table, etc. et regarder toutes les faces des dés pour essayer de trouver le plus rapidement possible les catégories des autres. Sachant que forcément, il y a une face qui n'est pas visible, puisqu'en lançant le dé, il y en a une qui sera cachée fatalement, mais on ne sait pas à l'avance ce sera laquelle. Donc voilà, c'est vachement original. Ça marche bien, c'est une bonne... Une bonne manière de détourner la recette des jeux de devinettes. Disons que c'est une sorte de dérivé du Pictionary, mais en plus malin, parce que du coup vous devez dessiner 6 concepts qui sont quand même assez, qui doivent être assez différents et assez évidents pour faire deviner ce que vous devez faire deviner, sachant qu'il y en aura un qui sera caché, mais vous saurez pas lequel. Donc ça c'est plutôt chouette quoi.
Ouais, j'ai bien apprécié notre partie. C'est vrai que le gimmick est sympa, ça marche plutôt pas mal. C'est sûr que le fait de devoir tourner autour de la table, c'est pas forcément très pratique, quoi. Mais bon, voilà.
Est-ce qu'on peut pas juste tourner les dés?
Bah,
t'es pas censé pouvoir les toucher. Mais après, en vrai, tu tournes pas forcément autour de la table, tu te penches et ça suffit.
Ouais. Normalement, ça suffit à peu près. Ouais. Ouais, sauf si vraiment,
peut-être même une autre face parce qu'elle est vraiment de l'autre côté. Tu peux pas la voir, quoi, du coup.
Bon, après, bah si franchement si tu te lèves tu te penches sur la table, bon après ouais, je suis pas sûr que je ferais ça chez moi, ouais, si on est à 4 à appuyer sur la table on va se la péter, mais ouais. Mais enfin pour moi ça fait partie du délire tu vois de tourner autour de la table.
Ok
mais je pense, mais du coup en fait ce qui est bizarre c'est qu'il l'avait pas présenté dans une configuration comme ça, tu vois, quelque part ce serait limite un jeu à jouer sur un manche debout, surtout que dans les festivals il y en a pas mal,
ouais,
et il y aurait la place je pense franchement sur un manche debout même pour jouer à 6. Et du coup là tu verrais vraiment l'intérêt de devoir tourner autour de la table et de toi de devoir un peu se pousser éventuellement tout ça. Et là je trouvais ça assez drôle. En revanche, je suis sûr que sur un manche debout tu fais pas jouer les enfants. Peut-être pour ça
Coopératif ou compétitif?
Non, c'est compétitif.
Hein. C'est le premier qui arrive à trouver les thèmes des autres.
En fait oui, quand tu trouves le thème des autres, tu vas couper le en fait t'as des timers quoi.
Ouais,
tout simplement à chaque fois. Donc c'est vraiment de la rapidité. Et après, tu gagnes des points si t'arrives à faire deviner tes thèmes ou si tu fais deviner ton thème aux autres. Quoi.
Et ils n'avaient pas peur qu'avec un nom comme ça, on les référence à un Roll and Write quand même. Parce que moi, j'avoue que j'ai pas joué au jeu et je savais pas ce que c'était. Mm. Quand tu m'as annoncé le nom, je me suis dit, ça va être encore un Roll and Write.
Non, c'est un Write and Roll celui-là.
Ouais,
non, c'est un Draw and Roll.
Ouais,
bon. Je pense que c'est fait exprès.
Ok, c'est juste une touche d'humour plus que...
Pas une touche d'humour, mais en fait, pour le référencement, c'est bien d'avoir des noms comme ça, je pense.
Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire.
Ouais. C'est complètement marketing, c'est incroyable.
Clairement.
Donc voilà, c'était Draw and Roll. Ensuite, on va passer à un clash, parce que on n'a pas le même avis avec Pionfesseur sur un jeu.
Ouais. On va vous parler de Stuff, de chez Repos Prod. Stuff, c'est un jeu où vous allez avoir des cartes avec uniquement des illustrations dessus. Alors c'est des illustrations très très simples, il y a genre un concept dessus, hein, genre un crayon, un tournevis, ce genre de choses, un requin, je sais pas. Et vous allez avoir un film à réaliser, c'est ça l'argument du jeu. Donc vous allez avoir 2 cartes qui vont être tournées, il faut faire un film correspondant à ces 2 cartes là. Et il y a plusieurs joueurs qui seront les réalisateurs et ils vont avoir une main de cartes et ils vont devoir fournir des cartes de leur main qui correspondent à la thématique du film, donc aux 2 cartes qu'on a mis au milieu en fait. Et bon, alors ils peuvent mettre n'importe quelle quantité de cartes, mais il y a quelques petites contraintes qui font que par moment, à certains tours, on doit mettre un certain nombre de cartes. Disons qu'il y a un minimum, un maximum, ce genre de choses. Et ensuite, il y a les autres joueurs qui vont devoir essayer de deviner quelles vont être les cartes qui ont été mises, sachant que évidemment, on va rajouter des fausses cartes. Et contrairement à pas mal d'autres jeux du style, c'est pas des cartes aléatoires. C'est-à-dire qu'on va pas prendre des cartes de la pioche qu'on va mélanger et ça se pourrait qu'on tombe malencontreusement sur une carte similaire. En fait, les cartes vont être piochées aléatoirement dans la main des joueurs, des réalisateurs. En fait, donc c'est parmi les cartes qu'ils n'ont pas sélectionnées, on va en sélectionner aléatoirement parmi celles-ci, quoi.
Autant donc dire que la sélection, elle doit être quand même hyper pointue, en fait, parce que il y a des moments où on va avoir un doute. On va dire oui, il y a un lien ténu, mais bon, est-ce que je mets la carte, est-ce que je la mets pas, sans parler des liens que nous on n'a pas imaginés, mais que d'autres autour de la table vont avoir imaginés.
Disons qu'en fait, si une carte, elle correspond même un petit peu, ça commence à être gênant parce que tu dis, ah, mais mince, s'il la pioche parmi les cartes erreurs, les cartes pièges, là, eh ben, ils vont croire que c'est la bonne carte, quoi. Donc, ça peut vite être problématique.
En fait, cet aspect-là, moi, je trouve très intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ce jeu Stuff, c'est Belrati. Belrati, c'est un jeu qui avait bien buzzé à Essen en 2018, que Repoprod a récupéré. Qui l'a travaillé. Et effectivement, moi, je reconnais pas trop. Alors, je me rappelle plus super bien, j'avoue, de Belrati, mais je reconnais pas trop le jeu. Est-ce que justement, ce qu'ils ont récupéré, c'est pas cette fameuse mécanique du je pose des cartes volontairement de ma main sur la table et je repioche aléatoirement des cartes pièges dans ma main. Je me rappelle pas très bien. En tout cas, je trouve que c'est un élément assez central dans le jeu. On a beaucoup de jeux comme ça dans lesquels on fait des propositions avec ce qu'on a dans notre main et après on va piocher des trucs au hasard. Et là, ça devient complètement random et des fois on peut effectivement tomber sur des trucs qui matchent tellement bien que il y a absolument pas de raison que l'équipe se plante pas, quoi. Là, quelque part, c'est comme si on responsabilisait un peu le joueur sur ses choix. Et donc il y a aussi un autre aspect que je trouve intéressant, c'est que le nombre de réussites qu'il faut faire va être aussi fonction et sous la responsabilité des joueurs. C'est-à-dire que communément, les joueurs vont devoir dire « Ok, ce tour-ci, on essaie de réussir 5 cartes, ou on essaie de réussir 7 cartes. » Et évidemment, bah, c'est en fonction aussi de ce qu'on a dans les mains. Donc, il va falloir essayer de dire « Ok, moi, j'en ai quand même 3 qui matchent bien. J'ai un collègue, il y en a 2 qui matchent bien. L'autre, il en a qu'une. Bon, bah, a priori, on devrait faire 6. » Sauf que si on a déjà réussi le contrat 6, ça matche pas. Parce qu'il faut faire un autre contrat. Il faut faire le contrat à 5 ou à 7. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement, du coup, il y a un contrat, ça va de pas nombre. Dans la partie qu'on a faite, ça dépend seulement du nombre de joueurs. Ça allait de 3 à 7, je crois. Et finalement, le 3 est pas forcément plus facile, puisqu'il faut tomber pile sur le bon résultat. Moi, j'ai trouvé le jeu intéressant. On a passé un bon moment autour de la table. On avait joué avec Paul Gara et Hammer, si pas de bêtises.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Moi, je trouve que c'est sûrement pas un jeu repoprod au niveau de Just One. Qui est assez évident et tout, c'est beaucoup moins épuré, c'est beaucoup moins voilà, mais je trouve que ils ont fait un énorme boulot. En tout cas, quand on voit que le jeu à la base c'est Belrati, j'aimerais bien rejouer à Belrati ou relire les règles pour revoir les différences, mais c'est impressionnant le développement qu'il y a dû y avoir, parce que le jeu il ressemble plus beaucoup à Belrati, quoi.
Moi, à l'inverse, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie. C'est vraiment un énième jeu de coopération asymétrique où on fait deviner des choses aux autres. Ça passe par des images, mais franchement, c'est pas non plus le premier jeu à utiliser ce gimmick. Enfin, Mysterium, ça faisait pareil déjà, mais c'était des illustrations. T'as Condemned Pictures, t'as Obscurio, t'as One Key, t'as tous les jeux Libellule, en fait.
Tous les jeux Libellule, donc ouais, voilà. Ça, on est bon.
Donc t'as Yes, t'as des chez Blue Cocker, t'as plein de choses comme ça. Voilà, moi du coup j'aime bien les party games comme ça, mais en fait j'ai pas envie d'acheter ce jeu parce qu'il ressemble beaucoup trop à d'autres jeux que j'ai déjà, en fait. Donc c'est mon problème. C'est le problème du jeu, quoi. Pour moi, il apporte rien. La seule mécanique intéressante, c'est vraiment cette idée de piocher dans la main du joueur parmi les cartes qu'il estime ne correspondant pas au thème, quoi.
Ouais. Mais moi justement, je trouve que ce truc là il suffit à dire c'est un jeu différent et qui donne un feeling différent, quoi. T'as vraiment ce truc où c'est-à-dire que la carte, tu vois, c'est pas le hasard qui a fait que cette carte elle est là. Enfin, c'est pas complètement le hasard parce qu'elle est quand même piochée dans ta main, on est d'accord, mais tu l'as vu cette carte et toi tu as choisi de ne pas la mettre. Et là, quand tu entends, je me rappelle, j'avais le canapé dans la main, il y avait le rat sur la table, ils tirent le canapé que absolument jamais je n'ai associé au rat, et là ils disent ah, le rat il peut s'être glissé sous le canapé, et là tu fais mais what, quoi, what. Je lavais le canapé et je vous assure qu'il a rien à voir avec le rat, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment sympa dans le jeu.
Bah en fait, disons qu'à première vue, effectivement, c'est cool parce que c'est une nouvelle idée de mécanique, c'est original, ça pourrait être utilisé dans un autre jeu plus tard, tu vois. Mais en fait, c'est censé corriger le problème de en piochant aléatoirement des cartes, on risquerait de tomber sur une carte qui correspondrait à la thématique. Mais en fait, ça ne fait que décaler le problème parce qu'on peut avoir on est toujours aussi dépendant du tirage parce que maintenant, si on se trouve avec des cartes, disons, correspondant moyennement au thème en main, eh ben, ça nous embête parce qu'on ne sait pas si on doit les garder ou si on doit les poser. Parce qu'on risquerait de les piocher en tant que carte piège si on les garde. Donc, en fait, ça reste un problème de hasard du tirage, on va dire.
Ouais, mais c'est à toi d'évaluer, un peu comme dans un système de chaud-froid, qu'est-ce qui est le plus en rapport et qu'est-ce qui est le moins en rapport, quoi.
Ouais, mais là
il faut espérer que tes collègues, ils ont la même échelle, quoi.
Le problème, c'est que là, tu ne peux pas dire moyen. Tu ne peux dire que chaud ou froid. C'est ça le problème.
Ben non, je suis pas d'accord. Il y a des moments où il y a un rapport, et plus ou moins, quoi. Quand on a eu, on va refaire une partie, là, mais il y avait la pizza et le requin. On s'est retrouvé avec un CD et à côté une batte de baseball. Bon bah on se dit que la batte de baseball ça peut être une arme et comme le requin peut être meurtrier et à côté il y a la pizza et le CD qui ont la même forme donc là lequel était le bon quoi, on en était là, on n'est pas sur du binaire quoi, c'est pas chaud juste chaud froid. Mais bon voilà, bah bref, vous aurez compris que ce jeu là il a plu à une partie de l'équipe et moins plu à une autre, voilà. Donc c'est ce qu'on voulait vous signifier en tout cas. On va passer maintenant au flop. Astien, tu voulais nous parler de Dust in the Wings.
Oui, mon meilleur jeu clairement du salon, hein, je vais dire. Non, vraiment, c'est mon pire jeu du salon. Là, j'ai patienté 40 minutes pour l'essayer. Hein, et, ça a duré 10 minutes, alors que sur la boîte, il y a quand même marqué 30 à 45 minutes. Enfin bon, je vais y venir juste après. Dust in the Wind, c'est un jeu édité par Pixie Game et les auteurs, donc ils sont au nombre de 3, c'est Denis Kerps, Christian Krusten et Jean-Claude Pellin. Donc il y a sur la boîte, il y a marqué qu'il y a une traduction anglaise, une traduction française. Donc je sais pas si c'est une localisation ou autre. J'ai pas su le lire. Enfin, j'ai pas trouvé ça dans les règles. Mais le principe du jeu, en gros, c'est qu'on a un quadrillage sur le plateau de 5 par 5. Donc on a 25 cases sur lesquelles on va avoir des petits papillons répartis aléatoirement par rapport à leur couleur sur des fleurs. Et on va devoir prendre une des cases, enfin les papillons sur une case, et les égrener où on veut sur le plateau, en suivant de façon toujours adjacente, sans revenir sur une case sur laquelle on est déjà passé. Donc c'est assez, du coup c'est assez facile de les égrener. On va pas forcément horizontalement ou verticalement. Vraiment, on peut commencer à les poser en montant, en descendant, en allant à gauche, à droite. Y a pas de souci. Et je regarde la case sur laquelle je vais poser mon dernier papillon et je vois si je peux remplir un des 6 objectifs qu'il y a autour du plateau. Sur les 6 objectifs, il y en a 3 en gros, ça va être des conditions de présence de papillons sur cette case-là. Donc je vais essayer d'avoir des 2 papillons bleus, un papillon jaune, un papillon rouge ou par exemple 3 papillons rouges. Donc je vais essayer de le cibler clairement quand je vais commencer à égrener mes petits papillons. Les autres cartes objectifs, ce sont des cartes d'alignement. Je vais essayer d'aligner X papillons sur 3 cases pour remporter cet objectif là. À la fin de mon tour, si j'arrive à remplir une des conditions ou même plusieurs conditions, j'ai le droit de prendre qu'une seule carte objectif remplie. Je la prends. Sur les petits papillons, il y aura des cristaux, je gagne les cristaux dessus. Sur les conditions d'alignement, je prends la carte et il y a des points sur la carte. Le jeu s'arrête quand il y a plus de petits cristaux parce que ces fameux petits cristaux, en fait, on va les poser à chaque fin de tour sur les cartes objectifs papillons. Et en fait, donc on est sur une mécanique qui peut nous faire penser à du Five Tribes, clairement, sauf qu'on est sur quelque chose de très très épuré, mais même trop épuré, donc beaucoup trop facile en fait. Clairement, les cartes objectifs d'alignement.
Trop évident, tu veux dire, non?
Beaucoup trop évident. Les cartes objectifs d'alignement, elles rapportent peu de points, donc c'est pas du tout intéressant d'aller chercher. Et les cartes les cartes papillons qui vont demander d'avoir 2 papillons bleus, un papillon rouge, un papillon jaune par exemple, sont très très faciles à faire en fait, parce que il y a beaucoup de papillons sur le plateau et on peut arriver très vite à faire une des 3 cartes. Le jeu s'arrête quand il y a plus de petits cristaux. Donc en gros la partie, je pense qu'elle a duré quoi, 6 tours, on est sur 30-45 minutes annoncées. On a vraiment, à 3 joueurs, on a duré 10-15 minutes, allez, avec l'explication des règles avant qui a duré 1 minute 30, on s'est chronométré.
Bah c'est bien ça du coup, parce que d'habitude on nous annonce déjà une demi-heure et puis au bout d'une heure et demie on n'a pas fini.
Ah bah ouais. Là je t'avoue qu'on s'est pas amusé quoi. Enfin, ouais. Tu vois une carte qui apparaît, tu regardes sur le plateau, tu peux la faire, ok, suivante. Allez, suivante. Il n'y a pas de stratégie d'essayer au moins de comboter avec un aliment plus une case avec certains types de papillons dessus. Tu peux pas comboter, tu peux prendre qu'une seule carte de toute façon.
Tu te sens pas impliqué dans la partie, en gros, ça pourrait être tu peux jouer en mode ordinateur, quoi.
Ah, mais vraiment, j'ai pas compris le fun là-dedans. Alors c'est mignon, hein, mais graphiquement, je veux dire. Mais à part ça, ça n'apporte rien du tout.
Ok. Bon, Dust in the Wings repartira en poussière. Professeur, tu voulais nous parler de Wormlord chez Sit Down.
Exact. Ça aussi, c'est un flop pour moi. Donc, Wormlord, c'est un jeu de Andrew Setodal et Jonathan Bittner pour 2 à 4 joueurs. Alors, c'est un jeu de chez Sit Down. Donc, moi, habituellement, j'aime bien les jeux de chez Sit Down. Ils aiment bien avoir toujours des petits principes un peu originaux.
Bah, c'est le cas.
Et ça l'est de nouveau, donc c'est pour ça que ça m'avait beaucoup attiré à la base, puisque c'est un jeu où vous allez devoir faire des nœuds. Donc vous allez avoir des petites cordelettes et vous allez devoir faire des nœuds très rapidement. C'est un jeu en temps réel, donc de manière frénétique vous faites des nœuds, et une fois que vous avez fait un nœud sur une cordelette, vous avez le droit de la placer sur le plateau, et c'est un ver de terre, et parce que la thématique ce sont des vers de terre qui se font la guerre pour récupérer des emplacements, on va dire des tours, et l'idée voilà c'est de placer ces vers de terre le plus rapidement possible pour essayer d'atteindre ces tours, parce qu'en fait quand vous placez des vers de terre, ils doivent être adjacents à un ver de terre déjà posé, quoi. Donc vous faites une espèce de chemin de vers de terre pour atteindre ce château. Donc le premier qui contrôle 3 des 4 tours a gagné. Et donc l'idée c'est que vous allez pouvoir aussi attaquer les adversaires en plaçant un ver de terre là où eux ils ont déjà un ver de terre, à condition toujours de respecter les adjacences, mais à ce moment là vous allez devoir défaire le nœud adverse et lui rendre devant lui, quoi. Alors les nœuds, on n'est pas censé les serrer très fort, donc ça va quand même assez vite, hein. Le but c'est vraiment de jouer sur le côté frénétique, mais malheureusement, et c'est pour ça que c'est un flop, c'est-à-dire que ça avait l'air super cool, et je pense que c'est le premier jeu de chez Sit Down que j'aime vraiment vraiment pas, quoi. C'est vraiment raté en fait, parce qu'ils en ont fait un jeu d'affrontement très abstrait au final, puisque c'est, il n'y a pas de hasard en fait, c'est purement la rapidité qui joue, et en fait on finit très vite par se bloquer à un endroit, on veut le château, et en fait bah on se tape et l'autre il fait le mouvement inverse, il me tape en retour et je le tape et il me tape, et en fait on se bat pour la même case à l'infini comme ça. Alors ça c'est si on joue à deux.
Ouais, mais attends, et c'est comme ça qu'en te battant avec quelqu'un, moi je suis passé par l'autre côté et je vous ai laté, quoi.
Oui, c'est ça, mais du coup si tu joues à plus en fait, le problème c'est que si tu fais ça à deux, bah c'est le troisième qui gagne. Du coup, en fait t'es là,
c'est pas un jeu pour jouer à deux, quoi. Enfin, ah mais non, tu veux dire c'est 8-3. Oui, bah oui, ouais. Mais justement tout l'intérêt c'est de réussir à voir ça et d'aller ailleurs.
En fait, le vrai problème, c'est que même si tu fais ça à 3, bah ok, il y en a 2 qui se tapent, c'est le troisième qui gagne. Ok, donc du coup, moi, je tape mon voisin de droite tape son voisin de droite, etc. Donc A tape B, B tape C, C tape A. Donc en fait, on peut vraiment, si on joue correctement et que, admettons qu'on soit aussi fort que les autres pour faire des nœuds ou pour défaire des nœuds, théoriquement, personne ne gagne jamais à ce
ouais,
jeu.
Ouais, mais ça, c'est la théorie. Enfin, franchement, regarde dans la pratique, tu l'as bien vu, on a oui. joué et ça a quand même fonctionné.
Du coup, en fait.
Tu dis ça parce que t'as perdu, c'est tout, c'était
ouais,
lent.
Mais ça veut dire que le jeu se résume à qui fait des nœuds le plus rapidement.
Bah ouais, mais de toute façon, à la base, c'est quand même un jeu de dextérité pour faire des nœuds de lacets, quoi.
Ouais. Mais ah, du coup, c'est. Moi, je trouve ça chiant, en fait, finalement, d'avoir un jeu où c'est juste qui fait les nœuds le plus rapidement. C'est pas ouf. Et du coup. Moi, je pense que ça aurait peut-être été mieux de faire un jeu autre chose qu'un jeu d'affrontement, parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'il y a de l'attrition. On tue des vers adverses, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on finit par se battre sur des cases, on les récupère, etc. Ça aurait été peut-être plus intéressant de faire un jeu, par exemple, de placement et de majorité, où, genre, on fait des nœuds, on place nos vers de terre sur des cases, donc il y a toujours ce côté rapidité, mais voilà, une espèce de pose d'ouvrier de vers de terre, vous voyez, ça pourrait être trop marrant, en vrai.
Pas de pose d'ouvrier. Si, tu voudrais faire des actions, tu?
Oui, non, enfin, je dis oui, pose d'ouvrier au sens on bloque soit des actions.
Et oui, donc de placement. Ouais.
Ou soit de placement pour du pur point de victoire, enfin. Ouais. Oui, l'idée c'est qu'il y a toujours cette idée de blocage, mais il n'y aurait pas l'idée d'affrontement qui fait qu'on peut se battre pour une case à l'infini, quoi.
Ouais, je sais pas. Mais il y a quand même un concept de base qui est assez rigolo. Après. Voilà, bon, c'est sûr que ça reste quand même un jeu gimmick, hein. Moi je trouvais ça drôle, mais c'est clairement pas le genre de jeu que je vais achèterais, parce que tu vas en faire 2-3 parties et puis en fait tu vas te lasser, quoi. D'accord.
Moi je le mets clairement dans mes flops, parce que c'est vraiment un flop. Je suis pas là, dans les flops, je veux pas parler juste de jeux nuls, je veux parler de jeux qui m'avaient l'air bien et qui finalement sont hyper décevants. Et oui, là, oui, c'est vraiment hyper décevant, c'est dommage.
Ouais, enfin, je pense que, effectivement, tu l'avais déjà dit, donc je pense que les auditeurs auront compris. En tout cas, moi, j'ai bien compris comme ça, effectivement. De mon côté, je vais vous parler de Namiji, qui est un jeu chez Funforge, qui est un jeu d'Antoine Boza, qui est le problème de ce jeu, c'est à mon sens, c'est que c'est la même chose que Tokaido. C'est exactement le même principe en fait. Hein, toute la mécanique de Tokaido est reprise. Namiji, bah, c'est la même chose. Il y a quelques éléments qui changent. À la place de devoir payer un repas quand vous êtes arrivé à l'auberge, bah, là vous arrivez sur un ponton, parce que là c'est des bateaux, vous êtes des pêcheurs. Lorsque vous arrivez sur les pontons, vous allez cette fois-ci gagner en fait un bonus qui va vous aider dans le reste de la partie. Donc ça change des petites choses dans Tokaido, mais au final ça reste quand même du Tokaido quoi. Donc en gros, si vous avez Tokaido, à mon sens, ça a aucun intérêt. Voilà, c'est pas un flop au sens mécanique, le jeu est nul ou quoi, c'est juste que pour moi bah c'est effectivement une ressuscité de Tokaido. Si vous avez Tokaido, à mon sens, il y a pas grand intérêt à avoir Namiji, sauf à être vraiment méga fan de Tokaido quoi et à vouloir comme avoir une extension quoi en gros. Moi, c'est comme si voilà, on avait mis une extension qui changeait des choses, mais que ergonomiquement ça marchait pas, donc du coup on refait un nouveau jeu.
Mais je crois que c'était parti de cette idée à la base, hein, d'une nouvelle version en fait de Tokaido que Antoine Boza voulait créer, et en fait Funforge est parti sur l'idée de créer un nouveau jeu carrément.
Ouais, d'accord.
Mais ça s'en cache pas, je pense, de l'inspiration de Tokaido, clairement.
Ah bah non, non,
il suffit de voir
graphiquement,
même illustrateur derrière, ou illustratrice, je ne sais pas.
Ouais. Donc du coup, voilà, je m'attendais à peut-être un peu plus de changements, je sais pas. Voilà. Et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez Tokaido, à moins d'être vraiment grand fan et de voilà, de vouloir renouveler l'expérience, dans ce cas-là, oui, ok. Namiji, si vous n'avez pas aimé Tokaido, il n'y a aucune raison que vous aimiez vraiment beaucoup plus Namiji, quoi. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de ce tout dernier débrief et à la fin de ce Fiège 2020. On va à nouveau remercier l'organisation de nous avoir accordé ce stand. On va également remercier les tipeurs qui nous permettent, grâce à leur financement, de nous être déplacés sur Cannes et d'avoir couvert le festival. On remercie également les gens qui sont venus nous faire un petit coucou sur le stand. Ça fait vraiment plaisir. Chères auditrices et chers auditeurs, si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite chez Proxy Jeux pour un autre format. On vous dit à bientôt et surtout,
jouez bien.